Alors ce matin, deux communications qui je pense seront très très intéressantes. D'abord avec Alkmaar dos Santos, qui est donc professeur à l'université de Santa Catarina au Brésil, qui participe aux activités de Hubert de Falaise depuis au moins 5 ans, hein, et qui fait de l'informatique, alors je ne sais pas de quelle sorte, puisqu'il y a beaucoup de branches, depuis environ une dizaine d'années. Il a d'abord une formation d'ingénieur. L'ingénieur en quoi ?
Électronique.
Électronique. Et puis ensuite, il s'est tourné vers l'université, la recherche, l'enseignement. Et il est également poète. Je ne sais pas si on touchera à ce genre d'activité, mais
ouais.
Bon.
Je peux vous le montrer, c'est toujours c'est un portugais alors.
Et voilà, évidemment,
c'est des lusophones.
Il travaille dans le champ lusophone, tout en étant bien sûr très en relation avec le champ francophone. Et dernière chose que j'avais à dire, eh bien, il est passionné de football. Ça n'a rien à voir, mais ça donne quand même un indice sur la personne. Voilà, je te laisse la parole, Alkmaar.
D'accord, merci. Bon, merci à tous, bonjour. Je n'ai pas tellement l'habitude de parler français souvent, alors vous allez m'excuser les hésitations phonétiques. Je vais essayer de parler tout doucement, c'est pas non plus mon habitude. Mais, et aussi, je ne veux pas me servir d'un ordinateur. Je crois que je passe trop de temps devant les claviers, les écrans, les machines. Alors ce matin, je voulais juste discuter, réfléchir, penser un peu aux machines, aux technologies. Alors, je vous apporte quelques questions, en fait. Je crois que j'essaye depuis déjà des années de poser des bonnes questions, au lieu de trouver déjà tout de suite des réponses. Alors, en fait, je voulais changer aussi le titre de mon intervention. Mettre au pluriel les technologies, deux points, quelques récits, je crois que c'est mieux. Et bon, je crois que je peux dire que qu'on utilise les technologies pour lire la littérature, mais on n'utilise pas souvent, pas explicitement la littérature pour lire les technologies. Ce que je propose ici, donc, c'est l'inversion de cette situation. Je crois qu'un tel renversement va nous permettre de découvrir les récits, c'est-à-dire les récits de la science et de la technologie, à partir des perspectives littéraires qui sont les nôtres. On pourra échapper ainsi à une certaine perspective évolutionniste, souvent associée à la technologie. Et aussi, raconter l'histoire de la technologie pourra peut-être nous donner une nouvelle manière de comprendre les récits que l'on construit et raconte à présent sur le web à l'aide des outils et des procédés informatiques. Alors, je commence par une citation de Torricelli. C'est en italien, je vais essayer de traduire, traduction directe. C'est plus ou moins, il dit, je fais semblant, ou je suppose, qu'un corps ou un point se meut vers le haut, vers le bas, avec une certaine proportion, et à l'horizontale, à une vitesse pareille. Cela étant, je dis qu'il s'ensuit tout ce qu'a dit Galilée et moi aussi. Pourtant, les boules de plomb, de fer, de pierre n'obéissent pas à cette proportion, tant pis pour elles, nous dirons que nous ne parlons pas des boules. C'est Torricelli. Alors, raconter une histoire, c'est toujours raconter une histoire avec, de, ou parfois contre un certain contexte technologique. Alors, raconter des histoires avec un contexte technologique, ça signifie que dans tous les récits, des outils, des processus de maîtrise de la nature ont toujours un rôle à jouer. Par ailleurs, raconter contre un contexte technologique, cela serait peut-être un choix de la stratégie narrative. Aussi, raconter des histoires d'un contexte, d'un certain contexte technologique, serait aussi un choix aussi légitime que celui de raconter contre. Tous les deux n'étant qu'un choix thématique. Mais cela n'est pas si simple. En fait, raconter des histoires avec un certain contexte technologique, cela ne veut nullement dire que le récit s'y soumet de manière passive. Car raconter entraîne toujours une modification dans la manière dont on comprend et utilise ces technologies-là. C'est-à-dire, lorsqu'on raconte, on change les significations que jusqu'alors on associait à ce contexte. Toutefois, même l'acte de raconter contre est aussi raconter l'histoire de son contexte technologique. Si l'on pense, par exemple, à un personnage, c'est Ned Land, personnage de Jules Verne, de 20 000 lieues sous les mers. Le narrateur le décrit, citation, guillemets, il dit « adresse et sang-froid, audace et ruse, il possédait ses qualités à un degré supérieur. Il fallait être une baleine bien maligne ou un cachalot singulièrement astucieux pour échapper à son coup de harpon. » À la fin de la description, on voit surgir le harpon, c'est-à-dire l'outil qui exprimait sa supériorité envers les animaux. Ned Land était censé savoir donc que sans l'instrument forgé en acier à chaud, ses adresses, sans son froid, son audace, ses astuces n'y suffiraient pas. Il avait déjà appris, Ned Land avait déjà appris, grâce à son métier de harponneur, que la maîtrise et l'utilisation d'une connaissance technologique que d'autres ne possèdent pas peut permettre de décider de leur destin. Alors, il y a là une coïncidence assez curieuse entre ce personnage de Jules Verne et un autre, qu'on ne trouve pas dans les récits fictionnels. Il s'agit de Ned Ludd. C'est l'inspirateur des groupes de chômeurs qui, dans les dernières décennies du 18e, dans les premières du 19e siècle, fracassaient des machines, des installations industrielles en Angleterre, en Bretagne. Alors, il convient d'interroger cette coïncidence entre Ned Land et Ned Ludd. Je prononce mal peut-être, mais de toute façon, je crois que vous avez bien repéré là les personnages. C'est une coïncidence qui s'avère plus complexe que la simple ressemblance de deux noms. Il n'est même pas exclu que Jules Verne ait utilisé son personnage pour raconter une autre histoire, non celle-là des aventures d'un fictif Capitaine Nemo, mais une autre histoire cachée dans les plis du nom d'un personnage dont les trames tissées par le narrateur. Alors, il est clair que le roman 20 000 lieues sous les mers nous raconte l'histoire du prodigieux avenir d'une civilisation qui est sur le point de maîtriser de nouvelles technologies et connaissances scientifiques. Néanmoins, le roman raconte aussi l'histoire d'un personnage qui est en proie à la colère, ce Ned Land, incapable de maîtriser ses instincts primitifs destructeurs. En fait, alors la question la plus importante à poser, c'est qu'est-ce que 20 000 lieues sous les mers raconte avec, de et contre la technologie? Aussi, de quelle manière pourrait-on juxtaposer ou même associer ces trois perspectives? Si les romans les juxtaposent, c'est peut-être dans la manière dont ils fictionnalisent en cachette de l'aventure scientifique et technologique de l'homme occidental. Autrement dit, il ne s'agit pas donc d'étudier comment une épistème donnée, celle d'une partie des sociétés occidentales du XIXe siècle, a permis l'apparition d'un certain type de narration à partir d'un certain éventail de possibilités thématiques, mais de vérifier comment on pourrait lire les sciences et les technologies à partir du fictionnel. Comment on pourrait les comprendre aussi comme des exercices de fantaisie et d'imagination. Alors, s'ensuit que même les répercussions technologiques de la science peuvent être envisagées dans les limites de la littérature comme des exercices de fiction, comme des constructions de la fantaisie. C'est ce que fait, par exemple, Italo Calvino avec ses Cosmic Comics et d'autres récits. Alors, il est vrai que pour beaucoup de lecteurs du romancier français, les ampoules électriques, les sous-marins, l'énergie atomique, ainsi que les équations de Maxwell, les transformées de Lorentz, les expériences de Mendel deviennent des éléments que l'on peut associer à l'univers romanesque et partant, qui peuvent être soumis à la fiction. Mais il ne faut nullement en conclure qu'on défend ici la thèse séductrice selon laquelle science et technologie ne seraient que des entreprises fictionnelles. Elles ne sont pas que cela, mais elles le sont aussi. C'est pourquoi on a le droit d'être contre l'une et l'autre, comme le fait d'ailleurs Ned Land lorsqu'il attaque Nemo, ou alors comme Ned Ludd et son cri de colère adressé au patron britannique. Alors, c'est justement cette possibilité d'être contre la science et contre la technologie qui rend possible la science, la fiction scientifique comme genre littéraire, en même temps qu'elle permet de prendre possession de la science et des techniques comme des éléments que l'on peut incorporer à l'imaginaire et les utiliser dans l'espace littéraire. D'ailleurs, il n'y a là aucune nouveauté. Mais il y a d'autres récits qu'on peut trouver sur science et technologie, d'autres manières de raconter nos rapports aux sciences et aux technologies. Pour les comprendre comme des objets de lecture, non pas comme des vérités objectives ou des processus empiriques, sans que l'on passe obligatoirement par le littéraire. On peut penser, par exemple, à Umberto Eco et son apocalyptique et intégré, par exemple, qui a discuté nos rapports aux sciences techniques en essayant de proposer deux manières tout à fait opposées de penser, de comprendre sciences et technologies. En ce qui concerne les intégrés, pour utiliser les mots de Eco, en ce qui concerne les intégrés, on pourrait sans doute penser à l'écrivain américain Alvin Toffler. C'est un exemple de l'explosion d'un enthousiasme intégré à partir de la parution de Future Shock en 1970, complété par Third Wave 1980. Alors, dans Future Shock, Toffler abordait des thèmes tels que la mort de la permanence, l'impulsion accélérative, le rythme de la vie, quoi encore, des limites d'adaptabilité, des stratégies de survie. Alors, pour décrire ce futur choquant, Toffler n'est pas sans évoquer les fantômes de l'évolutionnisme du 19e siècle, ou bien un darwinisme mal déguisé qu'il transplante du biologique pour l'utiliser dans le social. Pour Toffler, tous les changements de la vie contemporaine n'existeraient qu'en raison des changements eux-mêmes. Les changements auraient pour raison et motif les changements. C'est curieux que Toffler ait associé au monde occidental des années 70 un processus en tout semblable à celui inventé par Alfred Jarry dans son récit « Le surmal » de 1902. Alors, dans ce livre, Jarry conçoit ce qu'on pourrait décrire comme une communion directe entre le biologique et le technologique. C'est-à-dire, les impulsions du corps seraient enchevêtrées aux pulsions de la pensée, tous deux conduits par des principes mécaniques qui serait censé effacer les frontières entre l'un et l'autre. Alors, ce petit roman, évoquait la physique newtonienne, surtout le principe de l'inertie, alors que la révolution de la science contemporaine du XXe siècle entrait déjà en scène. En fait, en 1902, Lorentz remportait le prix Nobel pour ses études sur la radiation électromagnétique. Le même Lorentz qui, 2 ans plus tard, 1904, donc, proposait des équations mathématiques, les transformées de Lorentz, décrivant des effets tels que l'augmentation de la masse, le rétrécissement de l'espace, la dilatation du temps, des phénomènes faisant partie d'une théorie proposée un an après, 1905, par Einstein. Toutefois, Alfred Jarry ne s'occupe pas de la science d'une époque. D'ailleurs, il utilise des principes de la physique du XVIIe siècle, en fait. Alors, apporter au terrain du fictionnel ces entailles de la physique du XVIIe ne renvoie pas obligatoirement à des champs conceptuels, à des modèles épistémologiques reconnaissables. Elle donne de la cohérence fictionnelle à une situation où un être humain amplifie indéfiniment ses mouvements impulsé à peine par sa volonté. L'inertie de Newton associée à la volonté infinie de l'être humain de Descartes, le tout bien mélangé dans et par l'espace littéraire, aboutit sur Surmal de Jarry. Alors, l'histoire de la technique de la science, telle que la raconte Jarry à sa manière, ne prend pas en considération, ne prend pas au sérieux le darwinisme auquel se soumet Toffler. Ou alors le positivisme auquel l'écrivain américain rend hommage. Alors, on pourrait aussi faire référence à d'autres récits sur les sciences et les technologies qui ne sont pas littéraires. Je vais parler de Alvin Toffler. On pourrait aussi penser à Pierre Lévy et lui associer ce qu'on pourrait appeler une euphorie techniciste. Alors, je vais passer pour ne pas prendre trop de temps. Si on parle d'euphorie techniciste par rapport à Pierre Lévy, alors on pourrait penser à une sorte de ludisme raffiné en ce qui concerne Jean Baudrillard ou Paul Virilio. Après, vous pourrez lire là ce que j'avais écrit, parce que bon, je peux continuer. Je vais vous passer le texte, sûrement. Vous allez lire ce que je pense... de ces récits-là. Mais je voulais me pencher sur un autre récit, en fait, une autre histoire sur les sciences et technologies, racontée cette fois-ci par un Italien, un philosophe qui s'appelle Paolo Rossi. Je crois que vous le connaissez, non? Surtout un livre. Bon, pour nous, le Brésilien Paolo Rossi. Patrick a parlé du foot. Paul Ross nous rappelle aussi une certaine finale de Coupe du Monde en Espagne, mais c'était pas lui, c'était si méchant que ça. Paul Ross a écrit un livre qui s'appelle « Les philosophes et les machines », et « Les philosophes et les machines », c'est-à-dire cette étude qui raconte l'histoire des rapports entre art, science et technologie dans une période qui va de l'effervescence du 400 en Italie au XVIIIe siècle. Toutefois, à partir de cet intervalle, notre lecture peut élargir les questions que propose Rossi et remettre en question ses rapports, surtout en ce qui concerne notre époque. Alors, il est possible de raconter une autre histoire d'une autre manière. C'est la façon dont l'art peut donner de nouveaux outils à la technique. Alors que celle-ci apprend à celle-là de nouveaux processus. On découvre donc un nouvel espace de dialogue où art, science et technique ne s'accommodent plus des rôles qui leur étaient assignés auparavant. Autrement dit, il ne faut pas faire le procès de la modernité par le biais de ces technologies de production en lui donnant un sens unique, soit positif, soit négatif. Il s'agit au contraire de faire le récit des manières dont on tisse des dialogues entre des individus de spécialités différentes. Il s'agit de découvrir ou même de construire de nouveaux sens dans les technologies de production ainsi que dans les techniques de création. En l'occurrence, art, science et technologie s'enchevêtrent les unes aux autres de manière extrêmement complexe mais indéniable. On raconte fréquemment l'histoire de l'influence des sciences et des techniques sur la création artistique. Mais on raconte très rarement cette histoire dans le sens opposé, c'est-à-dire l'histoire du rôle très important joué par les techniques de création artistique dans les sciences et dans les technologies. Comme l'indique l'essayiste italien, les projets techniques de Da Vinci, par exemple, n'obéissaient pas qu'aux exigences d'ordre fonctionnel ou aux critères ergonomiques. Ils misaient aussi sur la gratuité. C'est pourquoi nous pouvons dire qu'il y a une gratuité qui hante nécessairement la technologie et la science. Et en plus, il faut souligner que la rencontre de peintres et de sculpteurs avec des ingénieurs, des artisans et des constructeurs de machines, comme l'indique Paolo Rossi, ne se faisait pas entre des professionnels de domaines et regards différents qui partageraient le même espace. En fait, c'était des regards et des perspectives différentes issues d'un seul individu. Un même arsenal de gestes expressifs et créatifs mis en œuvre par une même personne et qui ne distingue pas le géomètre de l'artiste. Et ainsi qu'au début de la Renaissance, peut-être plus que d'autres occasions, nous pouvons aujourd'hui raconter une histoire semblable de convivialité entre des techniciens, des artisans et des artistes. Il suffit de changer techniciens, artisans et artistes par informaticiens, ingénieurs en informatique, webmestres et cyberartistes. Pour ma part, j'essaie également d'établir une série de dialogues dans cet essai. Je cherche à raconter une autre histoire, portant certes, sur ces rapports entre art, science et technologie. Voilà, c'est la technologie. Et quelle serait donc cette histoire? Justement celle qui nous permettrait de nous approprier les processus et les outils informatiques sans que nous ayons à raconter ou accepter la primauté des simulacres, de l'hyperréalisme ou la fatalité insidieuse des grands accidents. Tout cela pour mieux comprendre les possibilités que nous avons de raconter sans arrêt mais toujours de manière différente ces rapports entre technique, science et art. Lorsque j'évoque l'acte de raconter une histoire de ces relations, je pense aussi aux récits qui se produisent grâce à l'informatique. La construction de récits dans le cyberespace, encore qu'il y ait derrière elle une tradition assez forte, ne s'est pas encore frayé un chemin assez distinct. Ce chemin devra rendre compte d'au moins trois actions. Raconter, vivre, représenter. Raconter concerne beaucoup de choses. Pour simplifier, alors associons ce geste au récit traditionnel. Vivre, on ne va pas le prendre, bien entendu, dans ses sens les plus généraux. Ce mot renvoie ici aux récits qui sont produits et disséminés à travers les chats, les communautés virtuelles comme Orkut ou les blogs, ou même dans ce que Janet Murray appelle holodeck. Finalement, représenter porte sur les jeux, dans une gamme qui va du RPG au MUD, M-U-D et MOO, M-O-O. L'apparition et la propagation de récits fictionnels dans les cyberespaces sont sûrement liés à quelques compromis en proportions variées entre ces trois possibilités. Néanmoins, pour établir une typologie quelconque pour les cyberrécits, nous aurons à nous rapporter au fond sur lequel ils se dessinent. Mais ce fond impose un dialogue incessant avec les technologies de l'informatique. Un tel dialogue nous impose aussi de raconter à notre manière des histoires sur les technologies. C'est ainsi que lire la technologie, pour nous, c'est la condition nécessaire, quoique insuffisante, pour un dialogue plus productif entre récit et outils technologiques. Surtout lorsqu'un tel dialogue s'établit dans les conditions qui sont les nôtres de haute saturation technologique. Bon, je vais vous donner un exemple. Je vais essayer de raconter quelques histoires sur les technologies associées au temps. En ce qui concerne les technologies associées au temps, nous pouvons penser à trois possibilités. Les appareils de comptage du temps, les instruments de contrôle du temps, les outils de stockage du temps. Voilà. Premier récit. Les appareils de comptage du temps. Pour lire la technologie. Combien de temps? Encore, j'ai complètement oublié, non?
Un quart d'heure.
Par montre électronique. Toujours un quart d'heure?
Avec un instrument pour mesurer.
Où ça?
Là.
Ah ouais, mais voilà, c'est ça. C'est la montre, c'est la technologie la plus raffinée. Alors, pour lire la technologie par l'entremise de ces appareils de comptage du temps, nous pouvons ébaucher un parcours qui, grosso modo, va de l'horloge solaire à la montre électronique. Les horloges solaires étaient associées à des installations rituelles et liturgiques. Elles célébraient le calendrier des années, des siècles. Pour leur part, les montres électroniques représentent une appropriation individuelle des rythmes de société contemporaine, mais aussi l'exigence d'accommodation du rythme de chaque individu à des intérêts qui lui sont extérieurs. Pour ce qui est de l'horloge, son énergie, pour ainsi dire, provenait de l'extérieur, c'est-à-dire du soleil. Pendant la nuit, cette opération n'était pas possible. Dans ce sens, c'est comme si le soir affranchissait l'homme du fardeau du temps. Par ailleurs, l'horloge solaire demandait ou imposait une lecture publique. C'était l'espace de la collectivité. Le temps n'était donné à l'individu que s'il était donné aussi aux autres. De son côté, la montre électronique ne requiert que la lecture en solitaire. Son temps est celui d'une fermeture quasiment solipsiste. En l'occurrence, le temps n'est du temps que s'il appartient à une seule personne. L'horloge solaire devait être observée de loin, à distance. Parfois, il faisait même l'objet de révérences. La montre électronique, selon une logique d'incorporation aux vêtements, paraît mettre le temps à la portée de la main et sous le contrôle de chacun. Par conséquent, de l'un à l'autre, de l'horloge à la montre, on transite du mythe à l'illusion. L'illusion, lorsqu'elle se soumet à la fiction littéraire, peut nous apporter une connaissance qui ne se plie plus aux utilitarismes immédiats de la technologie et des outils. L'illusion d'un temps déjà fait sur mesure et prêt à porter, comme celle de la montre électronique, semble avoir inspiré, quoique partiellement, quelques œuvres appartenant encore à la tradition de l'imprimé, comme celle de Georges Perec, la vie, bon emploi, le souvenir d'enfance, ou alors, dit à Lou Calvin, surtout si un voyageur, l'oubli d'hiver, etc. Oui, voilà. Le titre en italien, c'est La notte d'inverno, il viaggiatore, il faut le traduire. Et l'utilisation de cette illusion comme démarche pour multiplier les temporalités dont les récits créés dans le cyberespace s'avèrent tout au moins fertiles. Alors, deuxième récit, le récit des instruments de contrôle du temps. Nous pouvons en parler en racontant l'histoire des moyens de transport, de la traction aux animaux, au carburant des fusées, la diminution des temps de déplacement a entraîné une nouvelle temporalité humaine, partiellement indépendante de la temporalité de la nature. Mais les effets de ces technologies n'ont pas influencé que l'accélération des voyages. Il est apparu une nouvelle manière dont nous percevons la spatialité devant nous. Ce qu'on peut appeler la civilisation piétonne Voyager, c'était se mélanger au paysage, se mêler au parcours. On se mettait dans l'espace sans intermédiaire. Par exemple, les naturalistes européens qui, depuis le 7e siècle même, ont peint et désigné les paysages du Brésil, s'ils ont su regarder, voir, distinguer cette terre, c'est que leur vitesse de déplacement était le produit d'un dialogue direct et immédiat entre corps et paysage, sans l'intermédiaire d'instruments ou de stratégies de mouvements imposant une vitesse plus grande que celle qui est possible pour le corps humain. On peut dire que le rythme des pas des naturalistes était imposé par les clins d'œil, et par conséquent, il n'y avait plus de distance infranchissable entre toucher et regarder, entre marcher et connaître, entre parcourir et connaître. Alors, à l'autre extrémité, se trouve notre civilisation du train, de l'automobile, de l'avion. Depuis le 19e siècle, voyager s'est peu à peu transformé inexorablement en une séparation d'avec le paysage. Debray, le naturaliste peintre français qui est allé au Brésil au début du 19e siècle, ne parlerait nullement d'un là-dehors pour faire référence au paysage brésilien qu'il regardait pendant ses déplacements. Or, nous utilisons exactement cette expression pour indiquer les choses et les gens qui, hors de nos véhicules, paraissent se mouvoir et vivre selon d'autres logiques. Cependant, cet éloignement entre les individus et l'espace externe ne doit pas être peint avec les couleurs de la catastrophe. Il faut remarquer aussi une autre curieuse coïncidence. Le 19e siècle, qui avait déjà assisté dès son début à ce processus d'éloignement progressif entre l'individu et le monde extérieur, a également assisté, à sa fin, à l'apparition de la psychanalyse. C'est comme si, ayant mis l'espace externe à une distance rassurante, on avait frayé le chemin pour l'exploration de l'espace de l'intimité. En fait, le contrôle du temps par l'entremise de moyens de transport de plus en plus rapides portait déjà la promesse de l'annulation du temps de voyage, quoique de manière asymptotique. C'est-à-dire l'annulation d'un temps chronologique et conscient que la psychanalyse, elle aussi, met de côté. Chez Freud, le temps externe devient le personnage d'un récit d'éloignement. Or, le temps est aussi le protagoniste d'une fiction de H.G. Wells, La machine à explorer le temps. Nous avons là une autre coïncidence intéressante. Freud est né en 1856 et décédé en 1939. Herbert George Wells a vécu de 1866 à 1946. Leurs premiers ouvrages importants ont paru en 1895, Études sur l'hystérie de Freud et La machine à explorer le temps de Wells. Ainsi, la psychanalyse des moyens de transport de plus en plus rapides, des spéculations scientifiques approchant la relativité, tout cela a certainement inspiré des récits sur le temps. À travers ce genre de roman, nous pouvons raconter d'une autre manière ces histoires où le temps fait l'objet de contrôle et de manipulation. Pourtant, elles n'auront plus à obéir aux directives des épistémologies ou alors aux théories de la connaissance, mais à la multiplicité des logiques, à la causalité complexe et apparemment inutile de l'espace littéraire. Finalement, le troisième récit, qui concerne l'histoire des outils de stockage du temps, et qu'on peut associer à l'accumulation et à la transmission d'informations. C'est comme si, avec les informations, le temps lui-même pouvait être stocké et mis à disposition pour se laisser manipuler si nécessaire ou souhaitable. L'histoire du stockage du temps peut être aussi racontée comme le récit d'une divinisation de l'humain. Ce processus de stockage d'informations, commençant par l'oralité et après par la sculpture, la peinture, s'est étalé avec l'écriture et passé par la photographie et par le film, en arrivant par là, aujourd'hui, aux mémoires électroniques de l'informatique. On remarque là un effort toujours cohérent et constant pour resserrer des informations en multipliant non seulement leur quantité, mais aussi les détails qui les caractérisent. Il y a quelque temps, j'ai participé justement à un débat avec des littéraires, mais où il était question des technologies. Et alors, l'un des intervenants affirmait, les yeux voraces, la bouche tremblante, je crois qu'il bavait un peu, il affirmait que l'humanité disposait déjà de mémoires électroniques suffisantes pour stocker toute la connaissance de l'homme. Alors, je n'ai pas réussi à savoir s'il brandissait cette phrase comme menace ou comme promesse, sans doute comme menace. Alors, il ne se rendait pas compte qu'il parlait plus ou moins comme le narrateur de la nouvelle Funes el Memorioso. C'est un conte de Borges, de l'Argentin. Alors, j'ai un extrait là, hélas, en espagnol, mais je vais essayer aussi de traduire en direct. Un petit extrait. Funes connaissait toutes les formes des nuages du matin du 30 avril 1882, ainsi que les lignes de l'écume qu'un rame a soulevées dans le Rio Negro, la rivière noire, la veille de l'action del Quebracho. Deux ou trois fois, il avait reconstruit une journée entière. C'est Funes el Memorioso. Funes, comment traduire Memorioso?
Le mémorable.
Mémorable, quelqu'un qui se souvient de tout. C'est ça. Mais vous connaissez le conte peut-être. Pardon? La mémoire, bon. Alors, comme pour Funes, les technologies de stockage d'informations sont arrivées à un paroxysme. On garde de plus en plus de détails. On s'impose l'obsession de ne rien perdre, de ne rien oublier, comme si tout était également important, incontournable, pressant. En ce qui concerne les technologies et les processus informatiques, cette infinitisation de la mémoire est sûrement une impossibilité, malgré les acclamations des intégrés et les cris de colère des apocalyptiques. En fait, même à cette époque de mémoires électroniques et informatiques à la capacité étonnante, d'accord, je finis là, se joue toujours entre garder et perdre, entre se rappeler et oublier. Les mémoires, R-O-M, Read Only Memory, comment on dit ça en français, je ne connais pas... En portugais on dit Read Only Memory. Home, voilà. Et les mémoires ROM, alors, le plus souvent, ne se donnent qu'à lire, ne peuvent pas être réécrites, effacées, altérées. Nous pourrions apprendre avec elles que garder toujours les mêmes informations, comme elles le font habituellement, ce n'est pas la même chose que se rappeler. C'est surtout emprisonner le savoir. Et un savoir emprisonné, peut-être beaucoup de choses, mais sûrement ce n'est plus du savoir. D'autre part, les mémoires RAM, hein, c'est mémoire vive, non, c'est ça, mémoire vive, Random Access Memory, voilà, sont à l'autre extrémité de cet éventail. Elles ne sont que volatilité incessante, fugacité au niveau maximum. En l'occurrence, le hasard est le chef d'orchestre, en écrivant des données où auparavant il y avait d'autres informations. Pour ces mémoires vives, hein, savoir, c'est oublier, c'est-à-dire effacer les informations qui avaient été écrites lors de l'utilisation précédente. Alors, ce qui est en jeu actuellement dans l'informatique, ce n'est vraiment pas la taille de la mémoire électronique, ce n'est pas non plus l'expansion en continu de la capacité de stockage de données, mais les stratégies d'oubli. S'il est possible et même envisageable que nous racontions l'histoire des mémoires informatiques, nous devons le faire pour comprendre quelles seraient les stratégies d'oubli qu'elles entraînent pour notre société contemporaine. Chaque époque, chaque culture, chaque société a ses façons d'oublier. À notre époque de frénésie informatique, nous sommes déjà en train de développer de différents modes de construire l'oubli. Raconter ce genre d'histoire, des histoires sur et de l'oubli, voilà le défi auquel doivent faire face les auteurs de fiction les décennies qui viennent. Et raconter l'oubli ne signifie pas en faire le thème de nos histoires, mais d'en faire une stratégie d'intégration des outils et des technologies du cyberspace à la création fictionnelle. Pour finir, alors, je peux dire que l'écriture fictionnelle dans le cyberspace est toujours racontée comme si c'était l'histoire de l'adaptation ou de la soumission du fictionnel à l'informatique. En fait, il faut aussi raconter une autre histoire. Comment le fictionnel nous ferait lire, utiliser, déformer, transformer le champ informatique. Par exemple, il serait sans doute possible de revoir, reprendre et modifier le rôle du narrateur en proposant peut-être un cyber-narrateur, ainsi que le perspective de narration, si nous associons à nos récits l'histoire des instruments technologiques censés mesurer ou dessiner l'incertitude. Nous aurions là un parcours qui commence par l'observation des étoiles, passant par la boussole, pour arriver aux modernes appareils de GPS, sans oublier l'influence paradigmatique du principe de l'incertitude de Heisenberg. Nous pourrions y lire l'histoire d'outils qui essayent de construire une exactitude grandissante pour la détermination de la position physique d'objets ou de personnes à une époque, notre époque, où les positions physiques et idéologiques tendent à une fugacité pragmatique. De toute façon, ce que je propose ici, ce ne sont plus que quelques incursions dans les terrains de la fiction, de la littérature, de la science et de la technologie. Il faut en retenir non seulement l'effort de saisir la technologie et de mettre à profit quelques instruments technologiques pour y développer des récits fictionnels, mais surtout le travail de commencer par les récits fictionnels pour ensuite exprimer la manière dont nous, les hommes des lettres du 21e siècle, considérons et utilisons science et technologie, surtout dans ces années de haute saturation technologique. Merci beaucoup. Ça y est, 45 minutes.
Parfait, Aknar. Merci beaucoup. Voilà une expression très poétique au croisement des champs narratologiques et médiologiques qui suscite peut-être sans doute beaucoup de questionnements. Le temps que ça descende. Oui, madame.
Quand vous parlez de vous évoquez plutôt les manipulations possibles. Le mélange entre le réel et le fictionnel.
Aussi, c'est aussi, je crois, cette manière de nier certains prétendus mythes de la technologie, qu'elle est capable de tout faire, de faire de nous rappeler de tout. Il y a une sorte de mythe de la toute-puissance de la technologie. Alors, il faut aussi apprendre à oublier, se rappeler d'oublier. Je me rappelle d'un vers d'Alberto Caeiro, c'est un hétéronyme de Pessoa, où il parle d'un apprentissage du désapprendre. Je crois qu'il faut aussi apprendre aux technologies, aux techniques aussi, qu'il faut désapprendre, qu'il faut oublier. D'ailleurs, c'est inévitable, on oublie toujours. Alors, il faut savoir quelles sont les stratégies qu'on va choisir pour oublier les choses.
Madame, vous pourriez dire votre nom, c'est pour l'enregistrement.
Florence Morgenstern.
Merci. Monsieur le maire, et ensuite...
Vous avez parlé de manière bien intéressante de cette opposition entre technologie et fiction, en inversant la relation avec elle, mais c'est toujours une relation d'opposition. Je voudrais faire un commentaire à propos du jeu de Myst.
Oui.
Moi, je m'intéresse beaucoup aux jeux électroniques.
Myst.
Et dans l'univers de Myst, il n'y a plus cette opposition. Il y a au contraire une fusion entre la technologie et la fiction. Et il me semble que c'est un rappel intéressant pour nous, parce que cette technologie dans Myst, c'est une technologie d'écrire des livres. Et quand on sait comment écrire les livres de Myst, donc il y a une technologie, parce que écrire ces livres a pour résultat de créer un univers qui est donc fictif au point de départ, parce que quelqu'un l'invente en connaissant la technologie très particulière pour écrire ses livres, que nous d'ailleurs, nous ne connaissons jamais. Mais nous, il y a juste le maître de Myst qui sait comment écrire ses livres. Et donc, d'abord, c'est une technologie qui... c'est une fiction et une technologie. Et ensuite, on entre dans ces univers qui deviennent réels et qui peuvent se dérégler, d'ailleurs. Mm-hmm. Et là, il n'y a plus donc cette opposition entre la fiction et la technologie, entre l'imaginaire et le réel. C'est ça
oui, c'est vrai. Tu veux parler d'une opposition, mais il y a toujours, et aussi, pas toujours, mais de toute façon, il y a aussi une proximité qui n'est jamais... naïve chez les grands écrivains comme Jarry, comme Calvin, comme Perec, Queneau, il y a une proximité aussi. C'est, alors à la fois il y a opposition, il y a aussi proximité.
Un dernier commentaire, vous avez cité le Holodeck, il y a maintenant un livre célèbre qui s'appelle Hamlet en défendu Holodeck.
Oui, c'est ça.
Mais d'abord, c'est un élément de Star Trek.
Oui, ouais, Holodeck.
Non,
ouais.
C'est
Hamlet.
Le livre, c'est Hamlet.
Ouais, 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 c'est ça.
Le lieu lui-même, enfin, vous l'avez.
C'est le Star Trek, c'est la série.
Oui, pour continuer l'intervention de Michel Lemaire, je pense même qu'on peut aller jusqu'à dire que toute littérature est aussi une réflexion sur les modes de transmission de cette littérature.
Absolument. Enfin,
et c'est une hypothèse que je ferais volontiers sur ce que nous avons vu des créations, celle de Xavier et puis celle de Philippe de Jonquière hier, c'est que c'est aussi une manière de penser les technologies de communication. Mmh. Enfin, chez Philippe de Jonquière, c'était tout à fait évident que ce désordre était aussi une manière de penser le désordre, de penser le réseau. Enfin, c'est pour ça que c'était assez intéressant de relier les deux. Pour ce qui est de l'oubli, je voudrais aussi rappeler l'importance de l'oubli dans l'histoire littéraire. C'est-à-dire qu'une histoire littéraire se construit sur de l'oubli sélectif et différent suivant les époques, d'ailleurs. Hein. Certains d'entre vous, hier, jouaient avec la banque de données d'histoire littéraire. La banque de données d'histoire littéraire, c'est 750 écrivains français. Donc ça paraît très peu. En réalité, quand on joue avec ça, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens déjà à peu près inconnus.
C'est tout le monde.
Dans la gare des Michards, il y a 300 écrivains à peu près. Hein. C'est à peu près de quoi est faite notre mémoire littéraire. Ce qui veut dire que par rapport à tout ce qui a été écrit, on a oublié, on oublie sans arrêt considérablement. Et je dirais même que plus on produit de textes et de littérature, et actuellement en France, on publie 45 000 titres par an. Alors là-dedans, il n'y a pas que de la littérature, évidemment, mais ce qui veut dire que nous allons oublier de plus en plus. Et comme l'Internet arrive aussi avec sa gerbe de textes et de créations littéraires, ça veut dire que nous allons... Plus on produit, plus nous allons oublier. Donc il n'y a pas de souci à se faire, effectivement.
De toute façon, c'est juste pour...
pour l'oubli. Alors, ça n'est pas à l'Internet d'oublier. C'est à nous d'oublier...
C'est à nous d'apprendre comment oublier dans l'Internet, pour éviter en quelque sorte ce mythe, cette histoire que les technologues nous racontent d'un Internet qui va tout nous rappeler, qui va...
On n'a pas besoin d'apprendre.
Ils n'aiment jamais apprendre.
Il faut apprendre à retenir.
C'est ça.
D'autres questions ou commentaires?
Ça va continuer après, j'espère. De toute façon, ce soir, on aura l'occasion de cliquer, de naviguer, etc. Alors, vous allez voir, je ne suis pas apocalyptique, hein, au contraire. On pourra discuter aussi, mais en vous montrant les choses qu'on fait sur Internet.
Oui, ton approche n'est pas apocalyptique comme
celle
de Virilio, par exemple.
Non, pas du tout, au contraire.
Plutôt dans le genre Baudrillard.
Oui. Voilà. Oui.